Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 5 septembre 2025 et j'ai envie de vous lire le titre ce matin. C'est formidable, tout va mal. Au début de la semaine, nous étions en mode angoissé parce que les rendements étaient trop hauts et les justifications pour cette hausse étaient évidentes. Et puis, plus les jours passaient, plus nous sommes rappelés notre bonne vieille stratégie d'investissement qui est principalement basée sur le concept de la baisse des taux. Et ça tombait bien parce qu'hier, il y avait les chiffres de l'emploi version ADP et qu'ils étaient tout pourris. Et qui dit chiffre tout pourri dit économie qui ralentit, ce qui laisse de moins en moins de place à Jérôme Powell pour ne pas baisser les taux. Les marchés ont donc immédiatement réagi. Nouvelle de merde égale record historique sur le S&P 500 CQFD. À New York, c'était soirée mousse donc. Le Dow Jones prenait 0,77%, le S&P 500 0,83% et le Nasdaq 0,98%. C'est pas énorme dans l'absolu, mais suffisant pour marquer un nouveau record sur le S&P 500, le 21e de l'année, sauf erreur. Et encore, on n'a même pas commencé à baisser les taux. On n'est plus dans une simple tendance haussière, on est dans un marathon de paix aux stéroïdes. Chaque fois qu'un chiffre de l'emploi sort mauvais, les traders se frottent les mains et se confortent dans l'idée que la Fed va venir baisser les taux et que plus l'économie sera pourrie, plus la Fed va baisser les taux. Et quand l'économie ira mieux, le marché le montrera parce que l'économie ira mieux. Il suffit simplement de se concentrer sur le bon côté de la pièce. Actuellement, en finance, le principe est simple, tu joues à pile ou face. Si c'est face, tu gagnes. Et si c'est pile, tu perds pas. Donc, hier, les nouvelles étaient mauvaises et nous avons sagement appliqué la méthode et de se dire que si c'est mauvais, c'est quand même vachement bien. Eh bien, ça marche, ça marche plutôt pas mal. Hier, l'ADP annonçait seulement 54 000 nouveaux jobs privés, bien en dessous des attentes qui étaient de 75 000. Et comme ça ne suffisait pas et que c'était pas assez pourri, on a également rajouté les inscriptions hebdomadaires au chômage qui montaient. En résumé, on crée moins d'emplois et de plus en plus de personnes se retrouvent au chômage. L'ambiance est bien pourrie et ça fait très plaisir au monde merveilleux de la finance parce que ça ralentit. Oui, mais c'est pas encore le carnage, c'est le scénario presque parfait, assez faible pour forcer la Fed à couper les taux, mais pas assez catastrophique pour crier à la récession. Et le marché adore ce genre de scénario, ni trop chaud, ni trop froid, juste assez tiède pour maintenir et entretenir les bulles gonflées sans qu'elles explosent. Dans cet environnement, les taux ont pu se détendre. Le 2 ans à 3,59, le 10 ans à 4,18, le 30 ans à 4,87. Et là, tout le monde a recommencé à respirer. Surtout, tout le monde a oublié pourquoi ça nous inquiétait il y a 3 jours. On y reviendra dans une semaine ou deux, mais pour l'instant, ça n'était tout simplement pas le moment. Du coup, hop, record sur le S&P. Franchement, on est juste indestructible et je ne vois même pas pourquoi on se pose des questions. Les chiffres d'hier étaient pourris, mais ceux de ce soir seront juste comme il faut pour montrer que ça va sans que ça aille trop bien. D'abord parce que le nouveau patron du BLS ne veut pas se faire virer et ensuite parce qu'il faut montrer que la méthode Trump fonctionne juste assez bien pour soutenir l'économie, mais pas assez bien pour ne pas baisser les taux. Et puis, je crois sincèrement que cette fois, si Powell ne baisse pas les taux le 17 septembre, le 18, il va être kidnappé, et dans 12 ans, on le retrouvera dans une cellule oubliée de Guantanamo. En plus, je viens de tomber sur une statistique parfaite pour un matin comme celui-ci. Historiquement, chaque fois que la Fed reprend les baisses des taux après une pause, le marché action monte dans les 12 mois qui suivent. Autrement dit, si Powell baisse en septembre, Wall Street aura toutes les raisons de continuer la bringue jusqu'à l'an prochain. Et comme en plus, les résultats du second trimestre ont été largement meilleurs qu'attendus, ça donne carrément une légitimité supplémentaire à la hausse. De ce côté-ci de l'Atlantique, l'ambiance est plus morose. L'Europe a fini en hausse dans son ensemble. Le Stoxx 600 prenait 0,6%, le DAX 0,7%, le FTSE 0,4%, le SMI 1,5%. Mais à Paris, ça coince toujours et le CAC terminait légèrement en baisse. Parce que Sanofi s'est pris 8,3% dans les dents après une étude clinique décevante. Leur nouveau traitement contre l'eczéma n'a pas convaincu. Et parce que LVMH a perdu 4,2%, victime d'analystes pessimistes sur le luxe. Si vous ajoutez à ça un climat politique tendu et détestable, François Bayrou attend son vote de confiance et tout le monde parie déjà sur l'ingouvernabilité pendant que les agences de notation aiguisent leur rating à la baisse. Le 10 ans français dépasse les 3,6%, flirtant avec les sommets de 2011. On sent que la tension est palpable à Paris. À ce propos, je vous recommande ma dernière vidéo sur le sujet qui a été publiée très tôt ce matin chez Zone Bourse. Elle est juste là. Pendant ce temps, Francfort se gaffe d'upgrade d'analystes, Heidelberg, RWE, Airbus marque un record à 187,48 et en Suisse, le SMI fait un carton. Quasiment tous les gros noms de la cote étaient en hausse en attendant les chiffres de l'emploi américain, chiffres qui vont d'ailleurs certainement bien aider l'économie locale, c'est évident. En août, l'inflation suisse est restée à un maigre 0,2% sur un an, avec une légère baisse des prix à 0,1% sur le mois. Le chômage a progressé de 2,7% à 2,8%, soit 1123 personnes de plus au chômage. Au total, la Suisse compte désormais 137 794 demandeurs d'emploi. Et le SMI est en hausse de 6,7% depuis l'annonce des 39% de droits de douane. Tu parles d'un bail de dip. En ce moment, la psychologie de marché, c'est celle d'un joueur de casino compulsif qui gagne à tous les coups. Si l'économie ralentit, la Fed baisse les taux et c'est champagne. Si l'économie repart, c'est champagne aussi. On vit dans un monde où les mauvaises nouvelles sont recyclées en bonnes excuses pour monter et où Powell est vu comme le dealer officiel de liquidité bon marché. La France rame avec ses casseroles politiques et ses boîtes qui déçoivent, mais Wall Street s'en fout complètement. La seule chose qui compte, c'est le prochain shoot monétaire. En clair, on est assis sur une montagne de contradictions, mais tant que la fête continue, personne ne cherche la sortie, ou alors pas longtemps. Et ce matin, en Asie, c'est ambiance tendue, tendue parce que Trump a validé son deal avec le Japon, traduction 15% de tarifs sur quasi toutes les importations japonaises. En échange, Tokyo s'engage à investir 550 milliards de dollars aux USA et à acheter plus d'agricoles, plus d'avions, plus de matériel militaire. Bref, Trump a réussi à transformer un partenaire stratégique en super client de l'Amérique. Sauf que côté Japon, ça fait mal. Toyota prévoit déjà 10 milliards de pertes liées à ses taxes et ça va pas s'arrêter là. Ajoutez à ça les menaces de Trump de balancer bientôt des tarifs substantiels sur les semi-conducteurs et on a une région qui termine la semaine en serrant un petit peu les dents. Ça, c'était le côté économique, parce que du côté marché, on ne réfléchit pas pareil, et puisqu'on attend les chiffres de l'emploi américain de tout à l'heure, qui vont être tout pourris, et donc, vous le savez, ça va monter encore plus. Alors, dans le doute, ce matin, la Chine monte, le Japon monte, Hong Kong monte, tout est vert, dans une économie qui clignote dans le rouge. Au sujet du Japon, qui remonte encore ce matin à cause des NFP qui arrivent, on notera quand même qu'en juillet, la consommation des ménages japonais et les revenus des salariés ont dépassé les attentes, montrant une économie plus robuste qu'anticipée. Bonne nouvelle pour la croissance, mais moins pour l'inflation. Cette résilience et cette bonne ambiance relative pourraient pousser la Banque du Japon à envisager de nouvelles hausses de taux. Donc, si l'on pose l'équation sur le papier, vous avez le Japon qui va monter les taux et de l'autre côté du Pacifique, vous avez les States qui, eux, vont commencer à les baisser, les taux. Bien, maintenant je reprends la définition du carry trade. Le carry trade consiste à emprunter dans une devise à faible taux d'intérêt pour investir dans une autre offrant un rendement plus élevé. Et je me projette dans 6 mois quand les taux US vont baisser agressivement et que les Japonais vont monter les leurs. Que se passera-t-il lorsque le différentiel d'intérêt deviendra moins intéressant ? Donc, je disais ça juste comme ça on peut y penser pendant le week-end. Le pétrole continue de baisser parce que les stocks américains ont gonflé 2,4 millions de barils, dont 1,6 million rien qu'à Cushing, et parce que l'OPEP Plus pourrait encore augmenter sa production ce week-end. Résultat, Goldman Sachs voit déjà le Brent retomber à $50 en 2026, et si ça se confirme, les producteurs vont passer un sale quart d'heure. Le baril est à 63,34 ce matin, et puis rassurez-vous, hein, Goldman, ils sont souvent très faux sur le baril. Pendant ce temps, l'or brille de 1000 feux, on est à 3616 sur l'once, plus 35% depuis janvier, et surtout c'est devenu l'actif préféré des banques centrales. Elles en détiennent désormais plus que des treasuries américains. Notez quand même que c'est un basculement historique, c'est la première fois depuis 1996 que l'or pèse plus lourd dans les réserves mondiales que les bons du trésor. En gros, le message est quand même assez clair, plus personne ne fait totalement confiance aux États-Unis. Étrange quand même, parce que c'est quand même eux les gentils qui gagnent à la fin du film en général. Et côté action, deux histoires ont retenu toute l'attention après la clôture hier soir, on parle de Broadcom et de Lululemon. Le grand écart est énorme entre les deux et ils n'ont pas la même trajectoire. Voyons d'abord Broadcom. C'est simple, les mecs sont en train de se transformer en Nvidia bis. Et chiffre d'affaires trimestriel à 15,95 milliards, en hausse de 22% sur un an. Guidance au-dessus des attentes, 17,4 milliards au quatrième trimestre, contre 17 anticipés. Et surtout l'IA qui explose, plus 63% de revenus sur l'IA sur un an. 5,2 milliards au dernier trimestre, probablement 6,2 milliards au suivant. Et Octane, le patron qui annonce fièrement qu'il reste CEO jusqu'en 2030. Résultat, backlog à 110 milliards et un quatrième client mystère géant dans la boîte. Moralité, Broadcom, c'est du solide et c'est énorme. Le titre a pris 4,6% after close. Depuis avril, il a doublé et depuis que Tan a pris la boîte en main en 2006, l'action est à, tenez-vous bien, 18 000% de performance pendant ce temps, le S&P a fait 546. Et chez Lululemon, par contre, c'est moins drôle. Le titre chutait de 16% après avoir reconnu que ses leggings et ses joggings étaient devenus aussi excitants qu'une émission de Michel Drucker un dimanche après-midi quand il reçoit François Bayrou et Gérard Larcher pour parler diététique. Le CEO admet que la marque est devenue trop prévisible. Traduction, on a trop recyclé les mêmes produits et les clients se lassent. En même temps, qu'est-ce qui ressemble plus à un legging pour faire du yoga qu'un autre leggings pour faire du yoga? Enfin, moi, je dis ça, je porte jamais de leggings et je fais pas de yoga. Ajoutez ça à ça les tarifs douaniers de Trump qui plombent les coups et voici la marque star du yoga en train de perdre son souffle, comme quoi même les pantalons élastiques ont une limite à leur extension. Parlons maintenant deux secondes de l'avenir de la Fed. La Fed est censée être le temple de la rigueur avec de l'indépendance et de la sobriété. Mais avec Trump aux commandes, on est passé du manuel d'économie à un épisode de télé-réalité bas de gamme. Entre un candidat, Marin, qui nous jure qu'il restera indépendant alors qu'il bosse toujours pour la Maison-Blanche, et un processus de sélection du futur président de la Fed qui ressemble à un casting de The Apprentice, on se demande si on parle encore de politique monétaire ou si on n'a pas simplement basculé dans de la parodie. Alors d'un côté, on a Stephen Miran, le candidat de Trump pour la Fed, qui jure la main sur le cœur qu'il ne se laissera pas manipuler par le président. Sérieusement, on en rigole encore. Le mec reste officiellement employé par la Maison-Blanche tout en siégeant indépendamment à la Fed. C'est à mourir de rire. Et de l'autre, on a le processus de sélection du futur président de la Fed. Alors tu imagines un grand moment solennel, hein, sérieux, presque institutionnel. Eh ben non, en fait, bienvenue dans la saison 2 de The Apprentice Fed Edition. 11 candidats, des interviews façon télé-réalité par le secrétaire du Trésor, des noms balancés publiquement comme dans un casting de Koh-Lanta. D'habitude, la liste des prétendants est secrète, mais là, Trump a décidé que ce serait showbiz. On ne choisit plus le patron de la banque centrale la plus puissante du monde. On organise un casting pour trouver le prochain pantin qui obéira au doigt et à l'œil au locataire de la Maison-Blanche. Au passage, on nous explique que c'est pour prouver que Trump ne va pas contrôler la Fed. Non mais sérieusement, qui peut encore gober ça, quoi? Même les ex-gouverneurs de la Fed le disent. Impossible! Impossible que le futur président paraisse indépendant dans ce cirque, et pourtant tout ce beau monde continue de jouer le jeu comme si de rien n'était. Bref, d'un côté, Myron qui clame son indépendance avec la conviction d'un gamin pris la main dans le pot de Nutella, et de l'autre, une sélection de banquiers centraux qui ressemble à une mauvaise émission de télé-réalité, si tant est qu'il existe une bonne émission de télé-réalité. Moralité, on nous prend pour des cons, mais on nous le fait avec un sourire, et un générique et des applaudissements enregistrés. Et la Fed ne sera bientôt plus indépendante. On vit dans un marché schizophrène. Nous avons d'un côté la version Disney qui raconte que la Fed va baisser les taux, donc en anticipation, les taux baissent, les indices battent des records et tout le monde veut croire à la fête éternelle et puis à la fin, ils se marient et font plein d'enfants. Et puis, on a la version film d'horreur avec du sang partout où les banques centrales accumulent de l'or parce qu'elles ne croient plus aux treasuries, où Trump manipule la Fed et où le système repose sur des illusions de croissance qui ne tiennent qu'à cause de la planche à billets et un peu d'IA surévaluée. La vérité est sûrement quelque part entre les deux, ça c'est sûr, comme d'habitude, mais on a attendant, Wall Street préfère faire péter le champagne et tant que la musique ne s'arrête pas, pourquoi se priver de danser? Après tout, c'est pas tous les jours qu'on bat un record historique en priant pour que le chômage monte. Dans quelques heures, nous aurons les chiffres des NFP. Vous le savez, on attend 75 000 nouveaux emplois créés et un taux de chômage à 4,3%. Si c'est plus bas que 75 000 ce soir, le S&P battra des records parce que cette fois, c'est sûr, Powell, il va baisser les taux et c'est tellement bon quand Powell, il baisse les taux. On en reparle lundi dans cette chronique. D'ici là, excellent week-end à tous et profitez bien.